Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Épisode en pleine semaine, épisode exceptionnel. C'est fini, la saga James Harden est terminée. Il n'est plus un joueur des Houston Rockets, c'est un joueur des Brooklyn Nets. C'est donc la fin de la saga dans un trade XXL qui a engendré des changements d'équipe un peu partout. On va essayer de revenir sur ça et les quatre équipes impliquées. Pour ce faire, j'ai avec moi un peu l'équipe des anciens. Je vais les appeler comme ça. On a tout d'abord, pour ceux qui nous voient sur YouTube, dans un superbe pull. On est quoi? On est sur du bleu et j'ai un peu... On est sur quoi? Mentalo.
Exactement.
C'est Alan. Comment ça va, Alan?
Salut les gars, salut tout le monde. Ouais, un peu... Même si je pensais que ça allait arriver, je suis quand même toujours choqué du trade. Donc, super content d'être là avec vous.
C'est ce que m'a dit aussi Tom qui est avec nous. Il m'a demandé quand on s'est première phrase qu'il me dit aujourd'hui, il me dit tu t'es remis du trade Ben. Est-ce que tu t'en es remis Tom?
Pas encore bien digéré, mais on verra. Je pense que ça, il va falloir un peu de temps que les effectifs soient complétés tout ça, parce que c'est massif. Hein. Même si on s'attendait à quelque chose de massif quand une telle force est bougée, surtout dans une telle équipe, il va falloir un peu de temps pour vraiment digérer entre la spéculation et le réel.
C'est ça. Et on va parler beaucoup de spéculation dans cet épisode. On va donc revenir, on vous l'a dit, sur ce trade équipe par équipe. Et à chaque fois, on a essayé de dégager une petite problématique par équipe pour éviter de faire le classique perdant-gagnant. On sait que dans ce genre de cas, c'est assez difficile puisqu'on est quand on est moins de 24 heures après ce trade. Après, je vous rejoins. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. On était donc dans la soirée de mercredi parce qu'on voyait bien après les tweets de Shams et de Wojnarowski que ça commençait à se rapprocher quand même. On va donc en discuter en commençant forcément par Brooklyn. Avant ça, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires. On en a eu quelques-uns récemment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser le vôtre aussi sur YouTube. Laissez le commentaire parce que visiblement, j'ai regardé les YouTubeurs. Ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter donc de l'arrivée de James Harden à Brooklyn. C'est donc terminé, James Harden à Brooklyn contre... Alors là, Brooklyn a quand même réussi à envoyer tout, hein, pour la deuxième fois en moins de 15 ans. Petit récapitulatif. Caris LeVert, Jarrett Allen, Taurean Prince... Trois choix non protégés du premier tour, 2022, 2024, 2026, et quatre choix swap, donc possibilité de changer le choix, 21, 23, 25, 27, et en l'occurrence, ils ont eu James Harden et le second tour de Cleveland en 2024. On va aller équipe par équipe pour vous dire qui est arrivé, qui est parti, on va pas tout vous résumer dès le début. Notre question pour eux, c'est est-ce que ce all-in, donc ce tapis, est cohérent? Je vais commencer par l'homme au pull bleu et mentalo. Alan, est-ce que ce all-in est cohérent, selon toi?
Oui. Alors, moi, oui. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de réactions depuis 24 heures sur la quantité d'assets envoyés, la difficulté à évaluer ce trade dans la position que pourrait être Brooklyn dans ne serait-ce que 4 ans ou 5 ans. Mais ils ont récupéré un joueur top 5 NBA sur la décennie, peut-être pas sur la décennie, mais depuis 5 ans, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont encore du leverage en anglais, de la main sur son contrat pendant 2 ans, 2 plus 1. Donc c'est pas non plus un contrat expirant où tu l'échanges et il faut vraiment gagner tout de suite. Et puis surtout pour moi, ils ont fait, c'est la fin du processus de reconstruction. Et si on m'avait dit qu'un processus de reconstruction de Brooklyn, donc avec des choix de draft, avec des contrats expirants injectés, des jeunes qu'on allait développer pour leur donner une valeur de trade, ça allait pouvoir m'amener trois joueurs, trois des 15 meilleurs joueurs de la NBA et deux potentiels top 5. Bah moi je dis oui. Je dis oui, même si je comprends que l'incertitude sur le futur soit grande. Mais on a trois joueurs qui sont peut-être pas dans leur prime, mais qui sont d'une bonne période de leur carrière, dans la même équipe. Donc moi je salue ce trade. C'est risqué, mais je salue.
Trade salué par Alan. Et de ton côté, Tom, je suis le plus sceptique des trois, donc je vous laisse commencer.
Franchement, je trouve que c'est un all-in qui se justifie. Mais en fait, ça dépend pour qui. Pour la franchise des Brooklyn Nets, il se justifie pas forcément quand tu vois ce qui s'est passé juste avant et les conséquences de ce qu'avait réalisé Billy King. Mais si, par exemple, tu t'appelles Sean Marks, je pense que ça se justifie parce que de toute façon, si ça se passe mal, tu seras pas là pour avoir les conséquences et subir les conséquences de ce qui va arriver. Un peu à l'image de Daryl Morey avec le trade de Russell Westbrook. Quand il fait ce transfert-là, tu sais qu'il sera plus en place et qu'il ne sera pas obligé, du moins, d'assumer la situation de l'équipe à ce moment-là. Donc, si le proprio te met la pression et te dit qu'il veut gagner le titre dans les 3 ans, je pense que c'est le bon move à faire et tu t'en moques en fait tu t'en moques. Et après il y a aussi le côté certain. Je pense que tu vas certainement y revenir, Ben, mais la situation de Kyrie Irving est un peu ambiguë. La situation de Kyrie Irving est un peu ambiguë, donc du coup avoir Kevin Durant et James Harden. J'ai pas encore digéré. Avant Kevin Durant et James Harden, ça te permet quand même d'avoir un matelas entre guillemets, et on pourra pas dire il manque de créateur, il leur manque un créateur en playoff.
Je suis d'accord avec vous. C'est sûr que, alors, une réflexion à part, j'ouvre juste une parenthèse. On se disait ça avant de commencer à enregistrer. On est donc face à, alors ça diffère. Alan et moi on disait 2, Tom disait 3, en tout cas minimum 2, deux équipes qui ont complètement s'aborder leur long terme, voire moyen terme, dans la quête du titre, Clippers Nets, et qui sont dans l'obligation quasiment de le gagner. Ça, je trouve ça déjà intéressant. Vis-à-vis de ce trade, en fait, je me demande à quel point ils étaient obligés de le faire. C'est vrai, il y a peut-être eu des pressions du proprio, et on fait souvent le rapprochement avec ce qui s'est passé il y a quelques années, faut pas oublier que c'est pas le même proprio, et qu'on va y revenir, on parle quand même d'hommes millionnaires, ou surtout milliardaires, donc qui ont quand même un ego surdimensionné, donc qui pense parfois que les erreurs qu'ont pu faire leurs prédécesseurs ne vont pas être répétées. On y reviendra sur Houston, parce que là, c'est vraiment un cas d'école. Donc, je pense qu'il y a déjà cette volonté de se dire c'est différent. En l'occurrence, je pense que c'est totalement différent. J'aime pas rapprocher les deux cas. Pierce, Garnett, etc. étaient en fin de carrière, là, les mecs sont tous à leur prime. C'est pas pareil. Ma question, elle est juste, on va y revenir quand on va creuser sur ce trade. L'une des forces de cette équipe, c'était sa profondeur. Et je vois tout le monde dire, ah, mais la profondeur, à quoi bon? On a bien vu on avait peur avec la profondeur des Lakers. Il n'y a pas eu de problème, etc. Différent. Ils n'ont pas de défenseur. Ils n'ont personne qui peut défendre. Et historiquement, alors oui, on n'a jamais vu une telle association de talents offensifs, mais on n'a jamais vu une équipe vraiment, enfin, quoi, parmi les 10 pires défenses NBA gagner de titre. Ça n'existe pas. Et j'ai quand même du mal à imaginer cette équipe-là ne serait-ce qu'être une des 15 meilleures défenses de la NBA. Ils ont perdu Jared Allen, on y reviendra pour garder DeAndre Jordan qui reste quand même là par copinage. Ils vont demander à Kevin Durant de redevenir le Kevin Durant des Warriors, alors que si Kevin Durant revient d'un point de vue physique en attaque, je suis désolé, moi quand je regarde les Nets en défense, c'est toujours pas Kevin Durant. Alors on va lui laisser le temps, mais moi je suis assez inquiet sur demander à un joueur qui revient du tendon d'Achille d'être ton meilleur défenseur. Parce que c'est leur meilleur défenseur.
Bah, simplement pour rebondir sur ce que tu as dit et la partie défense, Kirk Goldsberry a sorti un graphique où on montre, on voit vraiment en fait que la pire équipe défensive sur les, depuis 2003-2004, la pire équipe défensive qui a gagné le titre, c'était les Warriors de 2017-2018. Et ils étaient 13e défense. C'était la 13e pire défense. Donc du coup, ça colle bien avec ce que tu dis. On n'a jamais vu d'équipe mauvaise, entre guillemets, enfin qui sont pas très au-dessus de la moyenne défensivement, gagner le titre. Après, là où le calcul peut changer, un peu comme tu l'as mentionné, c'est à quel point tu vas être supérieur offensivement à la moyenne. Un peu comme Dallas l'an dernier. Dallas, ils étaient moyen plus défensivement, mais ils avaient le meilleur offensive rating all-time. Donc du coup, ça fait la bascule. Après, sur des match-ups de playoffs, ça peut aussi changer. Mais ça va être intéressant de voir ça.
Ah là non. Alors, je fais un peu le pisse-froid. Dis-moi en quoi, faut pas s'inquiéter pour la défense, ou alors faut peut-être s'en inquiéter un petit peu.
Il faut s'en inquiéter, mais bon, déjà, je me dis qu'il y aura toujours Kevin Durant avec soit Kyrie Irving, je l'espère, soit Kyrie Irving, soit James Harden sur le terrain. Donc, il y aura déjà, franchement, offensivement, déjà, c'est vraiment assez incroyable de voir que KD sera toujours avec l'un des deux. Bah, moi, c'est ce que je ferais si je suis coach, je suis pas coach, hein, mais ça peut être intéressant là-dessus. Sur le personnel défensif, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi que c'est problématique. Ça reste problématique, mais je me dis qu'une franchise comme ça va réussir à tirer. Alors, c'est peut-être parfois surcoté, surévalué, des vétérans, des joueurs en fin de carrière qui viennent signer pour aider une équipe et prendre leur bague, c'est parfois un peu surévalué. Mais il y a des équipes qui ont beaucoup d'intérieur, qui vont sûrement en couper à la trade deadline. Ils pourraient peut-être en récupérer un ou deux. Ça sera jamais des foudres de guerre. Ça sera jamais Jarrett Allen, ce qu'ils ont. Jarrett Allen était, je trouve, il faisait un super début de saison, je trouvais, en plus du côté de Brooklyn. Mais oui. Mais de toute façon, il y a une expression française, hein, je l'ai dit, on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. T'as la possibilité de récupérer James Harden, de l'associer avec Kevin Durant. Un truc que je disais aussi, c'est, enfin, Kyrie Irving, c'est, à James Harden, pour moi, c'est Kyrie Irving amélioré, en fait. Donc, s'il y a un problème avec Kyrie Irving, bah, tu as quand même un duo exceptionnel offensivement. Et voilà, il fallait prendre ce risque. Pour moi, ça prouve surtout que, bah, Kyrie, je sais pas, mais KD, je pense qu'il a une grande influence dans la décision, et que
Clairement.
à Brooklyn, sa voix est écoutée, est
C'est le
grandement
patron.
écoutée.
C'est quand même pas très surprenant qu'elle soit plus écoutée qu'un mec qui est porté disparu depuis une semaine, quand même. Je pense que tu vois, c'est un peu logique, quand même. Mais je suis d'accord, on voit l'influence, parce que clairement, d'après ce qu'on nous ressort, il a plaidoyé pour l'arrivée d'un Harden. Je pense que mon problème, ce qui fait que je suis assez froid sur ce trade et sceptique, c'est que pour moi, comme on l'a dit, ce trade, il est viable que si tu vas gagner le titre. Donc moi, je les juge uniquement à travers est-ce que c'est une équipe, est-ce qu'ils ont ça ou ça pour gagner le titre. Après, je suis d'accord, offensivement, c'est une association qu'on n'a jamais vue. Après, offensivement, se pose encore une fois la question, alors là, je vais reprendre une expression très française, il n'y a qu'un ballon. Et le problème, c'est qu'on va demander à des joueurs de jouer de la façon dont ils n'ont pas joué. Alors, on pourra me dire parfaitement, hein, que James Harden peut jouer off, que Kyrie Irving peut jouer off, mais le truc, c'est qu'ils l'ont pas fait. Et encore une fois, ça m'embête qu'on redemande à Kevin Durant d'être le Kevin Durant des Warriors. C'est juste ça qui m'embête, moi.
Ce qui va faire la différence, plus que le jeu sans ballon, quoi, c'est qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas le ballon? Est-ce qu'ils vont juste regarder et du coup
Pour moi, Team USA,
attendre? Est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce que comme Team USA, ça va être tu à toi, à moi, et si jamais ils n'ont pas le ballon, ils vont juste regarder? Est-ce qu'il y aura un peu de mouvement du coup? Parce que vu que tu as des ball handlers comme ça, tu peux être imaginatif sur des cuts, des trucs comme ça, puisque ils vont attirer la défense. La défense va être obligée la défense va être obligée de réagir. Les histoires de trap, de blitz sur le pick and roll, tout ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, en fait, avec une équipe comme ça. Après, moi, je me dis que, ben, ce qui va se passer, c'est que ton troisième meilleur défenseur, qui est aussi ton troisième moins bon, il sera sur Kyrie Irving. Donc,
problème.
enfin, donc tu vois, ce sont des choses qui, voilà, ça te permet de relativiser. Et puis même, tu vois, un peu pour rebondir sur ce qu'Alan a dit pour la partie offensive, ce qui plombe tes ratings offensifs, c'est les minutes que joue ton banc. Là, t'as 48 minutes élite de roleplay. T'as 48 minutes élite de roleplay. Bon, si Kyrie Irving daigne bien revenir.
On va le dire combien de fois, ça, en fait? Combien de fois on va le dire?
Non, mais c'est ça. Bon, après, non, mais t'as quand même 48 minutes élite de roleplay. Et comme tu dis, pour moi, ce qui va être intéressant, que je vais regarder enfin, sur le plan défensif, c'est comment la défense. James Harden, c'est un joueur qui va être intéressant uniquement en switch. Puisque tu vas pas voir James Harden se battre pour passer au-dessus d'un écran. Enfin, les mecs ne vont pas se battre sur les écrans. Et puis, le côté de la défense en switch, entre guillemets, c'est un petit peu plus reposant. Ça sollicite plus, entre guillemets, ça te sollicite plus mais c'est un peu plus reposant que si tu dois courir après des mecs et tout ça. Donc du coup, je me dis que qui est-ce qu'ils vont ramener pour pouvoir faire ce type de système-là? On voit qu'il y a quand même des joueurs, il y a quand même des joueurs de petite taille, des mecs qui sont adaptés à ce style-là. On voit que enfin, dans les closing line-up, tu as Jeff Green, t'avais plus du coup, t'avais plus Jared Allen, t'avais Jeff Green dans les closing line-up. Donc tu as quand même des gars qui sont sur le marché entre guillemets qui peuvent te permettre d'avoir une défense en switch, quitte à ce que ce soit même des non-shooters, tu vois. Rondé Hollis-Jefferson, c'est un mec que tu peux récupérer, tu vois, des mecs comme ça.
Puis quand t'as les trois là, tu peux, ça va quoi. Tu autant dans 99% des équipes de playoffs sérieuses, Rondé Hollis-Jefferson, c'est compliqué. Mais quand t'as les trois là, ça passe. Après, je te rejoins sur cet aspect-là. Quand on les voyait terminer des matchs avec Jeff Green en 5, et du coup, ça, en gros, ça leur demandait de toujours marquer. Enfin, ils étaient totalement dépendants de leur scoring. Et on voit que les Nets, c'est une des pires équipes au rebond. Et ça m'inquiète parce que, alors. Certains auditeurs vont se dire, mais DeAndre Jordan est dans cette équipe. Oui, mais non. En fait, DeAndre Jordan n'est plus très bon. Donc, c'est sûr qu'il va. Je suis d'accord avec vous. Ils vont devoir trouver des joueurs à incorporer dans cette équipe. Après, j'ai l'impression que ça, c'est un peu une chimère qu'on renvoie souvent avec ces équipes-là, et qu'en réalité, des joueurs, des bons apports à la trade deadline de vétérans coupés, on en a moins que ce qu'on essaye de nous faire croire.
Totalement.
Clairement. Clairement.
Totalement.
Clairement.
Après, moi, si tu peux juste terminer, je pense, Ben, le comportement d'Harden, ceux qui sont assez critiques sur le trade, pas toi, je pense, mais le comportement d'Harden engendre beaucoup sur l'avis qu'ont les gens du trade et sur le futur. Bon, il a été dès la conférence de presse qu'il a faite il y a 2 jours, j'ai rarement vu ça, franchement,
C'est un collecteur,
c'est
même le
désastreux.
match contre les Lakers, c'est honteux.
Ouais, le match contre le délire autour du surpoids, le comportement un peu sans masque et tout ça, fait que je pense que même de manière totalement sans le vouloir, ça joue sur comment les gens évaluent ce trade, alors qu'il faut pas, il faut pas. Mais parce que si on parle juste terrain, oui, c'est une équipe qu'on ne peut ne pas aimer, c'est une équipe qu'on peut aimer vouloir perdre, mais si on évalue ce qu'on a sur le terrain, faut quand même être assez positif, je pense.
Ah, pour moi, ils sont favoris à l'Est, tu vois. Ils
Clairement.
sont clairement favoris à l'Est maintenant.
Clairement.
Après, tu vois, t'as la partie, ça va challenger le côté talent supérieur au fit, puisque même si le fit n'est pas idéal, là, le talent, enfin, offensivement, tu vois, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, en carrière, hein, Kevin Durant, c'est 30% d'usage, 60% de true shooting, James Harden, c'est 33% d'usage, 60%, 21% de true shooting, et Kyrie Irving, c'est 29% d'usage et 57% de true shooting. Donc, en carrière, tu vois, offensivement, on n'a jamais vu ça.
Ouais,
On n'a
c'est vrai.
jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un tel volume avec une telle efficacité, on n'a jamais vu ça. Donc, ça va être intéressant de voir ben, comment ça match. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, tu peux toujours échanger un comme pour une pièce qui fit, mais moi je crois pas, je pense pas. Généralement, c'est ce qu'on dit, tu trouves le talent et ensuite tu verras, tu vas gérer après. C'est plus difficile de trouver le talent, de gérer après qu'avoir une équipe montée au fit, on en parlera tout à l'heure, certainement, une équipe montée au fit avec des bons contrats et qui va nulle part.
Ah, je vois, je vois où tu veux nous amener, mais je suis assez d'accord avec ça. Je lisais ça sur Twitter, je crois. Cette équipe-là, c'est le test ultime vis-à-vis de ça. C'est vrai que là, offensivement, et je rejoins ce que t'as dit, Alan. Hein, moi, je répète encore, je suis juste dur parce que je les juge uniquement à travers est-ce qu'ils sont en position de gagner un titre, et est-ce qu'ils rentrent dans le moule des équipes pour le titre. Après, peut-être que je dois pas faire ça parce que justement, c'est du jamais vu. Donc peut-être que ils vont détruire les codes et ils vont réussir à porter une équipe qui respecte pas les codes. Mais en l'occurrence, je te rejoins parfaitement, Tom. Faudra faire attention à ça et faudra regarder en quoi si ce test est passé ou pas. Mais je répète, j'aime déjà pas le fait, par exemple, qu'on fasse jouer Kevin Durant 35 minutes ces derniers temps,
Ouais,
alors que c'est quand même un
clairement.
mec qui revient de tendon d'Achille,
Mais
etc.
je pense que si Kyrie revient, oui, c'est que
12e fois.
tu vas pouvoir beaucoup dans la saison en faire jouer 2 sur 3. 2 sur
Ouais,
3.
clairement.
Et quand même être toujours top 3 à l'Est, je pense. en ayant deux
Ouais,
fois trois.
comme les Lakers font un peu avec LeBron et AD. Après, le plus gros risque pour eux, de toute façon, il fallait qu'ils contentent Kevin Durant, puisque Kevin Durant, on n'en parle pas, mais l'an prochain, Kevin Durant, il peut s'en aller hein, à la fin de la saison. On n'en parle pas, c'est un 3 plus 1 qu'il a signé. Kyrie Irving, c'est un 3 plus 1. Bon, il a choisi, un peu comme Kawhi, il a choisi d'être là. Donc, normalement, il ne devrait pas partir, mais c'est quand même une possibilité qui lui est offerte. Donc là, il se retrouve en 2022 avec les trois mecs, avec une player option, quoi. Donc,
Il faut s'assurer.
En gardant Joe
Ouais,
Harris, ils ont quand même gardé Joe Harris.
clairement.
Du coup, ça c'est la partie, ça c'est pour nos fans, c'est pour First Take ça. Est-ce que vous les mettez favoris pour le titre là? Si aujourd'hui vous devez mettre un petit billet, est-ce que c'est sur les Nets que vous le mettez ce billet?
Non.
Je suis pareil. Non, je mets toujours les Lakers.
Et LeBron.
Puis plus que les LeBron, on en parlera. Je suis peut-être trop marqué. En fait, c'est parce qu'il y a Jeff Green dans cette équipe. Je pense mon problème, c'est pour ça.
Après, peut-être en saison 2, tu vois, parce que moi, je pense que cette équipe des Nets, elle sera candidate vraiment au titre limite favori l'année prochaine. Là où tu auras des mecs vraiment qui vont faire le choix de refuser de l'argent, un peu à la David West pour jouer au minimum, tu vois, des mecs peut-être Malgré ou des trucs comme ça. Je pense que là, on pourra, ils seront une équipe qui
Aldridge au
sera beaucoup plus forte l'an
minimum.
prochaine.
Et c'est
Et
parce
c'est
que si c'est
possible.
le Aldridge de maintenant, il est pas bon Aldridge en ce moment. Enfin,
Mais au minimum, je le prends. Mais après, c'est un
surtout que c'est
peu.
Brooklyn, ça
Ouais.
attire. Je te laisse finir, mais.
Non, t'as raison, mais c'est pas un peu. Ça fait pas penser à ce que tu disais avec les Clippers, Tom, sur cette année, l'année 2.
Ouais,
Donc,
un peu là. Ben c'est ça, la deuxième année, puisque là,
tu vois
c'est
les
quoi?
Clippers meilleurs que. Plus favoris au titre que les Nets cette année?
Cette année, ouais.
Bon, ok.
Je suis pareil. Je suis pareil. On va peut-être tellement se taper
Ok,
long
ok.
dans 6 mois.
Bah, c'est pas grave, mais faut assumer, hein. Faut se mouiller, hein. Les Nets, ça demande que il y a trop de changements. Il y a trop de changements. Je trouve que c'est trop brutal, en fait.
Dans
Je
une
pense que.
année pandémie où t'as pas d'entraînement.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
Tu vois,
non.
c'est trop brutal. Après, les mecs se connaissent, parce que, enfin, on va pas se voiler la face. Quand les mecs vont à Las Vegas ou à Los Angeles, ils font les pick-up games, ils connaissent, ils se
Ouais, ils ont
connaissent,
déjà
ils
joué
se
ensemble en
côtoient, c'est
plus,
mieux
ouais.
ça, ils ont déjà joué ensemble. Je pense qu'il n'y aura pas de gros problème, mais c'est vraiment le côté vécu collectif, tu vois.
Et
C'est plus
autour, ouais.
facile quand si par exemple tu pars d'un fit défensif de créer une unité collective qu'avec des attaquants, en fait.
Après, je pense que y en a qui vont être un. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les nouveaux joueurs des Nets de cette année, ils n'étaient pas aux Nets l'année dernière. C'est-à-dire que tous ceux qui sont
Ouais,
partis dans le
clairement.
trade, c'est les anciens Nets, entre guillemets. Là, les joueurs qu'ils ont récupérés comme Bruce Brown va jouer. Hein.
Ouais, clairement. Ah ouais,
Bruce
il a pas
Brown
le choix.
va
Là,
jouer.
il est titulaire, là,
Timothy Leo Cabarro va jouer. Il y en a d'autres encore que j'oublie.
Claxton, ton mec, ton gars
Ouais, mais
Claxton.
tu peux pas aller avec Nick Claxton et Reggie Perry en backup intérieur en playoff, c'est impossible.
Non,
Enfin,
non.
c'est impossible
Mais
pour
ils
le
vont trouver
moment.
du monde, ils vont trouver du monde.
Ils vont trouver du monde.
Ça, on en parlera dans. Bref, je sais pas. Hein. Avec le contexte actuel, c'est ça aussi moi mon vrai problème de base avec ce. On va refermer le chapitre Nets, mais mon vrai problème c'est que tu fais un tapis en année pandémie. On n'a
Ouais.
pas la suite du calendrier. On en est à quoi? On doit être une petite dizaine de matchs reportés. On ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis, à peu près comme sur toute la planète. Et parmi les trois stars, tu as un philosophe de France Culture qui est totalement instable. Donc, c'est ça ma question. Parce que Kyrie, c'est un peu les montagnes russes. Il y a un moment où on lui a tapé dessus, il y a un moment où tout le monde s'agit. Ce qu'il fait en ce moment, c'est quand même un petit peu surréaliste. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, pour ceux qui n'ont pas suivi. Personne sait. En fait, on sait peut-être il est où, mais voilà, il fait absence,
Il était sur Zoom
déserte.
il y a
Il
2 jours.
déserte.
Ouais, il était
Il
sur
était.
Zoom dans une œuvre caritative. Alors c'est très bien, mais bon.
Mais après, ça, tu vois, là où c'est scandaleux, c'est qu'en fait, Kerry, en agissant comme ça veut dire qu'en fait, pour lui, il a de comptes à rendre à personne. Tu vois? Parce que si t'as des. Si, si, genre, tu. Si, tu, disons que si t'es un collaborateur, tu collabores avec quelqu'un, entre guillemets, enfin, le minimum, si quand tu fais quelque chose, voilà, tu vas en parler à la personne. Là, il agit de son propre fief, donc, genre, il doit rien à personne. C'est lui qui commande, quoi, en gros. Et c'est ça qui est un petit peu problématique.
Et est-ce qu'il n'y a pas, alors là, psychologie de comptoir, je m'en excuse. Ça, vous allez voir l'équipe d'après, je vais en faire beaucoup plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de Kyrie? Parce que, alors, c'est pas sorti via les journalistes les plus sérieux. Donc, on sait pas si on prend ça avec des pincettes, mais visiblement, Kyrie n'aurait pas apprécié le fait de pas avoir été vraiment consulté sur l'embauche de Steve Nash. Est-ce que Kyrie aussi
C'est du BS.
a pas une image de lui qui est totalement, pas liée à celle de la réalité, parce que autant moi je suis actuellement, je suis les Nets, oui je donne le choix à Kevin Durant, parce que Kevin Durant, alors il y a la question, est-ce que quel Kevin Durant va revenir, mais potentiellement j'ai un top 3 mondial là où je l'ai pas avec Kyrie, et je pense que peut-être Kyrie surestime l'importance que les Nets vont lui donner, et peut-être il a cru que en allant du côté des Nets ça serait 1A 1B, alors que les Nets se sont dit on a Kevin Durant et Kyrie Irving. Ouais, c'est psychologie de comptoir.
Complètement. Mais... pour moi, Kyrie, dans sa tête, il se prend, c'est Kyrie 2016, finale 2016. Mmh. Il a été ce joueur-là sur une campagne de playoff sur tellement fort. Et si on va pas se mentir, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais, et même, il fait de très très bonnes saisons après. Même à Boston, il fait de mauvais playoffs, mais il fait une bonne saison régulière, en termes statistiques. Mais dans sa tête, il se prend, oui, pour un...
super ça.
Est-ce qu'il se prend pour l'équivalent de Dame et Curry? Je pense.
Ah, clairement. Pour moi, il se met dans la même cour que ces gars-là, en fait, qu'elle a envie. Et après, tu peux pas vraiment lui donner tort, parce que quand il les a affrontés face à face, les choses étaient, au moment le plus haut, tu vois, la scène la plus haute, il a dominé Steph Curry. Mmh.
Ouais.
Donc, tu vois, et puis, faut pas se leurrer, les joueurs NBA, ils ont beaucoup d'ego.
Bien sûr.
Je pense que ça fait partie de leur qualité, l'ego et la confiance en toi. C'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important pour réussir en NBA. Et en fait, je pense que Kyrie, il a simplement confiance en lui et il se dit dans sa tête, je suis le meilleur joueur de la Ligue, clairement. C'est peut-être pas vrai tout le temps, mais dans sa tête, c'est ce qu'il pense et c'est peut-être son moteur et c'est ce qui fait que c'est Kyrie Irving, en fait.
Mais sur certaines séquences, il a côtoyé ce niveau-là. Peut-être qu'il se dit que c'est son niveau à lui. Il l'a déjà côtoyé. Alors pourquoi ça serait pas son niveau?
Sur des micro-séquences, ça justifie.
Ouais, tu vois, c'est pour ça. Je suis d'accord.
Mais après, tu vois, pour les, quand tu regardes le trade, globalement, ils ont perdu qui de leur closing five en vrai? Personne.
Ça c'est plus négatif que positif.
Parce qu'ils faisaient jouer Jeff Green.
Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'ils faisaient jouer Jeff Green et que Jean... ah. Et Dinwiddie, moi Dinwiddie je le compte aussi, hein. Il est plus là Dinwiddie.
Ouais, mais il est blessé, tu vois.
Ouais, mais il est pas là de la saison, top.
Ouais.
Le truc c'est qu'en gros sur leurs 6 meilleurs joueurs du début de saison, ils en ont perdu 3.
Ouais. Voilà, c'est ça.
C'est vrai.
Mais c'est pas les deux meilleurs. Donc
c'est pas les deux meilleurs,
donc,
c'est ça.
Tu vois, c'était pas ce que les gens appellent top heavy, très très bon en haut. Là vraiment c'est l'équipe très très bonne en haut. Alors là c'est le meilleur exemple, je pense. les trois meilleurs joueurs par rapport aux 9 autres, ou si on veut faire une rotation à 10 par rapport aux 7 autres, on a rarement vu un écart, je pense. Donc ça va être aussi intéressant pour ce que tu disais, Ben, en termes d'évaluation. C'est fascinant, en fait, fascinant ce qui va se passer.
Et rappeler par rapport à toute notre discussion sur Kyrie, voilà, la science politique appliquée au basket par Benjamin, tous les acteurs ne sont pas rationnels. C'est pour ça qu'on comprend pas. Et petit roulement de tambour, transition vers Houston, vu qu'on parle de mec pas du tout rationnel. Alors, côté de Houston, on a envoyé James Harden et ensuite, asseyez-vous, ça va prendre du temps. On a reçu Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Kurucs, je n'ai pas fait...
nos amis laitons.
C'est ça. En gros, tous les choix de draft, soit pas protégés, soit des swaps de Brooklyn jusqu'à 2027, et le premier choix non protégé de Milwaukee en 2022. Bon, celui-là, visiblement, on souhaite rien de mal à Giannis, ça devrait pas être super haut. Parce qu'on aime toujours avoir cet aspect-là un peu front office ici, est-ce qu'on n'a pas ici l'exemple de l'importance du propriétaire avec ce qui s'est passé à Houston? Là, pour répondre à cette question-là, bien sûr, les auditeurs comprendront qu'on va pas s'arrêter juste sur ce trade, mais en gros, depuis la prise de pouvoir de Tillman Fertitta, parce qu'il a quand même pris en main une équipe qui était, quoi, une des trois meilleures de la Ligue, une des meilleures de la décennie, et il se retrouve avec son meilleur joueur qui est quoi, Victor Oladipo en fin de contrat, ou Christian John Wood qui explose, ou John Wall qui revient d'entre les morts. Enfin bref, Tom, est-ce qu'on a l'exemple de ça, de l'importance du proprio là?
Ben clairement, le proprio, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc mais clairement, faut se dire les choses comme elles sont.
Ouais. C'est une équipe d'en sauvegarder, qui... ouais. De pas en perdre.
Voilà, c'est une équipe qui était en position, en très bonne position pour peut-être gagner le titre ou même aller en finale NBA, qui n'a jamais utilisé la mid-level exception alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Donc, c'est une équipe qui ne veut pas payer la taxe. Pourquoi tu ne veux pas payer la taxe? Parce que quand tu ne payes pas la taxe, tu reçois l'argent des équipes qui paient la taxe. Là, avec ce trade, ils passent en dessous de la luxury tax. Donc, du coup, ils vont recevoir l'argent des équipes qui paient la taxe. Pour l'instant, les Warriors, ils sont à 162 millions de taxes. Donc, tu as de l'argent à te faire, tu as de l'argent à te faire quand tu es en dessous de la taxe cette saison. Et tu as Brooklyn aussi qui est dans la taxe. Donc, tu as pas mal d'argent à te faire si tu passes en dessous de la taxe. Enfin, globalement, tu es mal fait, c'est ça. Le mec, il veut pas payer. Et pour lui, c'est un business. Donc là, et typiquement, là, tu l'as pas évoqué, mais le fait de ne pas vouloir peut-être le contrat long de Caris LeVert ou même t'engager sur le montant du contrat de Ben Simmons, tu dis ok, on nettoie les finances, je veux atteindre le salarié floor l'année prochaine. Et quand tu regardes voilà, PJ Tucker il n'est pas payé, les mecs sont pas payés. Donc lui, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe compétitive en payant le moins possible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire.
Est-ce que ce qu'il veut, c'est pas, je m'excuse pour mes propos, parce que là, on n'a pas quand même l'archétype du mâle blanc américain qui a réussi dans le business et qui veut juste, qui a un peu l'équipe NBA comme un trophée. C'est-à-dire que j'ai une franchise NBA, par contre, ce que j'en fais, en fait, rien. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai tapé Timan Fertitta sur Google et que je suis allé dans Actualité, j'ai appris qu'il s'était fait livrer il y a 2 semaines un yacht à 150 millions de dollars. Donc je trouve quand même que là, on est quand même dans une info qui est surréaliste. Pour un mec qui quand même a demandé des crédits pour payer une franchise NBA, ça c'est quand même, je trouve que
de taux d'intérêt, enfin,
des crédits, que même votre banquier, si vous l'aimez pas, il va pas vous offrir. Enfin bref, je trouve quand même qu'on est sur un niveau là, c'est assez incroyable. Un yacht de 50 mètres, hein, c'est très bien, mais je trouve quand même qu'on est sur, il voulait une franchise NBA, mais là on est sur un exemple typique de tout le monde ne joue pas le titre. Est-ce que t'es d'accord, Alain?
Ouais, complètement. C'est une belle leçon, truc qu'on mentionne pas assez, vraiment pas. Que Tom dit depuis bien longtemps déjà, et que bah année après année ça se c'est, il y a différents petits exemples qui sont des indices de ça. Alors pas payer la taxe, comme a dit Tom, dire t'as une super équipe et ils prennent peut-être une pièce et tu payes pas alors que t'es à ça potentiellement de jouer le titre. Ça c'est un bon exemple où t'as cet exemple là du c'est pas du tout une peur du vide à la San Antonio qui a préféré récupérer un All-Star plutôt que des jeunes joueurs. Là, c'est vraiment, il va falloir, on économise. Genre, c'est en fait, c'est pas gagner de l'argent, c'est ne pas en perdre. Ce qui j'ai l'impression, moi, du côté de Houston, ce qu'on veut faire. Parce que, et c'est Brian Windhorst qui disait ça dans son podcast hier soir, Ben Simmons, il pensait être tradé hier. Ben Simmons, il s'était préparé à être tradé. Parce qu'en gros, Houston discutait avec deux équipes en réalité. Ils discutaient avec Brooklyn et Philadelphie. Parce que selon un report qui est sorti, je ne sais plus de qui, Boston ne voulait pas discuter avec eux parce qu'ils trouvaient que c'était trop ce que demandait Houston. C'est-à-dire
ouais, ça mimique.
Jaylen Brown, Marcus Smart, 3 premiers tours de draft. et Boston a raccroché. Et là, en fait, donc Tom l'a bien dit. Le meilleur deal à mes yeux, c'est Ben Simmons. Je veux Ben Simmons, moi, dans le deal. Moi, je veux Ben Simmons. C'est
Ben Simmons avec 50 contrats.
C'est ça, avec 50 contrats qui va. Le prime de Ben Simmons. Le prime de Ben Simmons, il a 24 ans, je crois, 23 ans. Toujours des problèmes dans son jeu, je suis d'accord. Mais moi, je veux Ben Simmons. C'est un des 5 meilleurs défenseurs de NBA. Et en attaque, c'est un attaquant délicat à évaluer. Donc, je me permettrai pas de le classer par rapport à d'autres joueurs pour le moment. Mais non, ils ont pas choisi ça. Ils ont choisi, comme l'a dit Tom, on assainit les finances. T'as dit Ben, peut-être être moyen plus, ça le contenterait. Ça m'étonnerait pas qu'il soit peut-être content de finir 11-12 et, ah, je suis top 5 à la loterie. Oh, bah, ça me va. Et voilà, si son but c'est pas de gagner le titre, bah, il y a différents moyens de gagner de l'argent, quand t'es en NBA.
Rappelons que c'est, parce que là c'est peut-être un peu nébuleux pour certains de nos auditeurs, Timan Fertitta a repris les Rockets fin septembre, en fin 2017, je vais y arriver, et c'est quelqu'un qui a fait du business dans tout ce qui est hôtellerie, restaurant.
C'est
autant
ça.
Vous dire que le mec c'est pas la meilleure année de sa vie, 2020 je pense, et on rappelle quand même, c'est un mec qui a pas hésité à limoger c'est le droit américain donc c'est différent, 75% du staff de ces restaurants comme ça. Donc ce mec, c'est il y a un aspect business, il est pas dans le caritatif, et donc là clairement je suis totalement d'accord avec vous. En fait, Ben Simmons, c'est le meilleur deal si tu veux reconstruire et être crédible dans 3-4 ans. Si tu as comme objectif de juste gagner de l'argent, le meilleur, c'est clairement ce qui a été donné là. Pour peut-être un peu sortir de cette perspective proprio et peut-être regarder le reste de l'effectif, Moi, j'ai un peu de la peine pour... Alors, certes, il a un poste de coach en NBA, mais Stephen Silas, il est quand même mis dans une situation extrêmement difficile entre ce qui sort là via DeMarcus Cousins et John Wall. C'est vraiment que les dernières semaines ont été, niveau ambiance, c'était pas super positif. Et là, il se retrouve avec un amas de joueurs. Enfin, tu vas devoir faire fitter Oladipo avec John Wall, avec Boogie Cousins, un Christian Wood qui émerge, un Tucker qui est à moitié plus là. Enfin, c'est assez compliqué.
Ouais. Mais clairement, après, tu vois, lui, après, c'est la vie aussi d'un coach NBA, hein. C'est la vie d'un coach NBA, et puis, voilà, c'est un peu pour ça que, tu vois, par exemple, des fois, t'as pas mal de coachs qui sont passés par la G League qui arrivent à réussir, parce que eux, ils sont habitués à ça, t'as des joueurs qui arrivent dans la semaine, ils doivent jouer, tu dois les intégrer, tout ça. Donc, lui, il va devoir, créer quelque chose, sachant que, pour moi, je pense que Houston n'a pas terminé, hein. Oladipo, je suis pas persuadé qu'il reste là, il peut être retransféré à la trade deadline, puisque ces Bird Rights ne valent rien, puisque tout le monde il y aura plein de monde qui aura du cap space, et, il y aura très peu de personnes qui vaudront, entre guillemets, la quantité de cap space qu'il y aura. Donc, typiquement, même si tu as les Bird Rights de Oladipo, le seul truc que tu peux faire, c'est lui proposer un an en plus. Mais est-ce que tu veux proposer 5 ans au max à Oladipo? Je suis pas sûr. Après, tu as P.J. Tucker, les équipes commencent à appeler pour P.J. Tucker. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas le prolonger? Nous, on veut le récupérer. Tu vois, il y a des équipes qui commencent à appeler pour P.J. Tucker. Donc, si ça se trouve, l'équipe qu'on aura après la trade deadline de Houston est totalement différente de l'équipe qu'on aura. Et en fait, dans ce deal-là, j'ai vraiment l'impression que eux, ils s'en moquent de ce qu'il y a sur le terrain. Alors, peut-être qu'ils récupèrent Oladipo pour le côté naming, tu vois. C'est-à-dire, pour faire croire aux fans, ouais, on a récupéré un mec qui était All-Star contre James Harden, tu vois. Mais dans le fond, tu vois, je pense que eux, ils se disent, on doit envoyer plein de picks à OKC, on va essayer de récupérer la même chose du côté des Nets. Et après, on peut naviguer à flot sans être obligé de toucher le fond, sachant qu'on va recevoir des pics de draft d'autres équipes. On n'est pas obligé de tanker, entre guillemets, pour avoir nos propres choix de draft et nos propres pics, même si c'est ce qu'il faudrait peut-être faire. Mais du coup, on peut se permettre de rester moyen et d'avoir des extra pics chaque année.
Expert draft, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça dépend de la stratégie, comme vous l'avez dit tous les deux, franchement, parce que déjà, en fait, est-ce qu'OKC est un gagnant ou un perdant? Je trouve ça plus difficile que tout le monde ne le dit, moi, à comprendre.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Tout le monde met OKC gagnant. Mais en fait, si tu swaps, déjà, la stratégie va changer. Ils sont peut-être moins mauvais plus tard qu'ils devaient l'être. C'est-à-dire que ça sera pas totalement jachère. Comme on pouvait le penser quand le duo Westbrook Harden s'est formé. Il y a plus Harden, il y a plus Westbrook à Houston. Moi, je trouve ça assez fou quand on y pense. Mais ça va devenir l'équipe du conditionnel. Il y a beaucoup d'équipes. C'est marrant. On est vraiment dans un moment binaire. T'as les équipes, c'est titre où on jette au feu, et les équipes où non, mais vous inquiétez pas, on a des possibilités d'avoir plusieurs choix de draft sur 6-7 ans. Tout ça par des résultats de deux composantes. La prise de pouvoir, mais la mainmise des superstars dans les décisions, et l'importance du propriétaire dans les décisions et les destins des franchises. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec Tom, et je rajouterai Rick Gordon, je sais pas s'il va rester non plus du côté de Houston.
En gros, ils vont démanteler l'équipe qui est passée pas loin du titre, quoi. C'est ça qui semble évident. Je suis assez d'accord. Moi, oui, par rapport à OKC, je suis d'accord. C'est qu'en fait, je pense qu'ils vont être globalement sur la durée. Je sais pas, un truc pas du tout radiophonique, là. C'est ceux qui ont la vidéo qui comprendront. En fait, Houston va être médiocre sur la durée. Voire mauvais. Moyen. Mais ils vont jamais être au fond du trou, je pense.
Les picks seront peut-être meilleurs maintenant. C'est maintenant que les picks seront peut-être meilleurs pour OKC. Mais ils auront peut-être pas les picks top 3 qu'ils pensaient avoir en 2000, au milieu de la décennie, en fait. C'est ça que je voulais dire.
Après, comme vous me l'avez fait remarquer en off, nouvelle loterie, un coup de chance avec les dés, et tu te retrouves numéro 1.
Les picks swaps sont protégés, attention, les picks swaps sont protégés top 4. Donc, tu vois, il y a quand même le petit matelas, le pick swap est protégé top 4, quoi.
Mais je pense clairement que moi, Fertitta, dans sa logique, vu que, je répète, je pense qu'il est dans une logique totalement mégalo, il veut une franchise NBA, mais il veut pas que sa franchise NBA, elle soit à 15% de victoire, tu vois. Il va essayer de maintenir un semblant de, parce que clairement, l'indication, les prochaines semaines seront une indication. Si, il prend que des expirants et que les quelques bons joueurs qu'il avait, il les fait partir. Oui, là, clairement, il sera dans une logique totalement de reconstruction, etc. Mais je pense pas qu'on se dirige vers ça. À noter, là, c'est petite vanne NFL. Texans, Rockets, ça fait pas bon d'être un fan de Houston en ce moment. C'est vraiment la Vérésina. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, vous les gars. Moi, je trouve ça juste fascinant qu'on ait du coup Nets, Clippers, deux équipes qui ont totalement leur futur. Les Rockets, ça a un peu changé du coup à cause de ce trade, qui ont totalement hypothéqué leur futur. Moi, j'ai hâte. J'aimerais bien avoir une machine à avancer dans le temps justement pour regarder ces équipes, voir ces équipes dans 4 ans peut-être.
Qu'est-ce que vaut un titre? Question.
C'est ça.
Qu'est-ce que vaut un titre?
C'est ça. Est-ce que si tu gagnes le titre, est-ce que ça efface tout? Après, je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est limite, si, je serais pas surpris, hein, que ce soit beaucoup monté, entre Morey et Stone pour faire monter les enchères.
Oh.
Moi, je serais pas surpris.
Ruse et Fino.
Donc Stone, le nouveau GM de Houston.
Ouais.
Mmh. Ouais.
Parce qu'on va être honnête que, alors, ça arrive souvent, mais là, il y a les offres carrées, pratiquement l'offre finale qui a pu la lire 3 heures ouais. avant 3 heures avant dans les médias américains, donc ça paraît un peu gros quand même comme changement, donc ça peut se comprendre. À voir. C'est sûr que, alors il y a, j'ouvre juste la petite parenthèse, voilà, moment psychanalytique pour les fans de Philly. Ça va les gars, vous avez toujours Embiid, vous avez toujours Simmons, il y a pas besoin de piquer des crises, hein. Ça va. Bon, alors vous avez peut-être pas Harden. Il faut vous calmer. Les fans des Sixers, t'as l'impression, ils ont perdu la Coupe du Monde. C'est incroyable.
Ouais, ça, ils vont courir après Bradley Beal, ils vont courir après.
Oui, ils veulent courir après tout le monde maintenant.
Ouais, mais après c'est ça. Hein, ben, c'est un peu les fans de Philly, c'est un peu comme ça, tu vois. Eux, ils veulent réparer leurs jouets cassés, et du coup, ils connaissent les faiblesses de leur équipe sur demi-terrain et ils veulent retrouver ce qu'ils ont perdu, quoi. Et bon, enfin. Ils ont pas de patience.
C'est la fanbase la moins patiente de l'histoire, je crois. J'ai jamais vu ça.
On a patienté, c'est bon.
Il faut, ouais. C'est incroyable. Après, tu peux comprendre la frustration, l'équipe avec Buckler, etc. Mais c'est fascinant, en fait. Eux, c'est vraiment, eux, ils me tuent. D'ailleurs, petite dernière chose. Je trouve qu'Alan, il parlait du NBA binaire. Je maintiens qu'un des résultats qu'on a, il y a plus de trades de joueurs moyens. On a que des trades de superstars. Les trades de joueurs moyens, il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont sur la trade line, dans la trade machine. Aaron Gordon, Miles Turner, les mecs bougent pas. Les mecs ne bougent jamais. À voir.
Après, t'as quand même eu Covington, mais bon.
Ouais, mais c'est parce qu'il voulait plus payer.
C'est
peut-être un début ça.
Alors, du coup, en parlant de joueurs moyens, allons vers l'équipe moyenne que sont les Pacers. Alors là, c'est plus simple, il n'y a plus de choix de draft, etc. Ils ont envoyé Victor Oladipo, ils ont récupéré notre ami Caris LeVert, le potentiel de 27 ans. Tom, tu m'as proposé une question, la certitude moyenne plutôt que l'incertitude peut être bonne. Alors, si je reformule ça, en gros, ces Pacers préfèrent être sûrs d'être bons que peut-être être très bons, mais avec le risque derrière d'engendrer quelque chose de moins bon.
C'est ça, en gros, la seule chose que, enfin, tu le vois clairement, Indiana, c'est une équipe, on avait fait un podcast il y a à peu près 2 ans là-dessus, Yalan l'avait bien soulevé, c'est une équipe qui ne construit jamais. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va transférer sa star et qui va pas la laisser partir.
Ben qui l'avait dit. Bien.
Ouais, j'aimerais bien qu'on me rende I need my respect.
Donc Ben qui a dit qu'en fait c'est une équipe qui ne reconstruit jamais et qu'ils ont jamais de bas pics. C'est jamais une équipe que tu vas voir dans les bas-fonds de la ligue. C'est une équipe qui va être toujours moyenne aux portes des playoffs, en playoffs, aux portes des playoffs. Et en fait, ils font ça en gardant un certain cap. Larry Bird, quand il était GM de l'équipe juste après Pritchard, il a dit quelque chose dans un podcast qui a peut-être engendré le fait qu'il ait quitté l'équipe après. Il a dit, j'ai un montant que je ne dois pas dépasser. Et je dois avoir une équipe compétitive avec le montant que je ne dois pas dépasser. Vu que Indiana ne va jamais, entre guillemets, payer la luxury tax, d'ailleurs, le trade de Oladipo leur permet de sortir de la luxury tax et, du coup, d'empocher l'argent des équipes qui sont dans la luxury tax. Donc, du coup, c'est une équipe qui a plutôt une logique financière, donc, du coup, qui voit plus des joueurs comme un capital asset qui vont faire jouer ensemble que vraiment une équipe pour gagner le titre. Eux, leur but, c'est pas gagner le titre, leur but, c'est juste d'être bon de ne pas être mauvais et d'avoir des bons joueurs sur des bons contrats. Quoi, c'est l'équipe du fan français moyen.
Je voulais que Tom sorte cette punchline qui sort depuis quelques jours. Moi, j'ai juste pour revenir sur Houston, j'ai vraiment l'impression que Houston pourrait devenir l'Indiana de sans la culture, etc. Mais il y a peut-être ce potentiel de devenir l'Indiana de l'Ouest, où en gros, faites une équipe compétitive avec peu d'argent. On va pas viser les très hauts, mais n'allez jamais très bas. Qu'est-ce que t'en penses, Alan, plutôt de l'arrivée du joueur Caris LeVert? Je vais éviter de parler sur ce sujet, parce que c'est pas un joueur que je trouve un petit peu surcoté, moi, Caris LeVert.
Ouais, nous, il nous en a mis 50 au Garden l'année dernière, il nous a complètement déboîté, donc j'en ai pas un très bon souvenir, mais pour moi, c'est tout simplement, si je veux parler sportif, ils font le pari de Caris LeVert, le pari de, ou alors, il y a le dossier médical d'Oladipo. Le dossier médical de l'Oladipo, mais ça avait l'air quand même un peu mieux, j'avais l'impression, depuis le début de saison. Et là, je pense qu'ils avaient peut-être pas prévu non plus que Brogdon prenne une telle dimension quand il le récupère. Ils se disent que potentiellement, Caris LeVert peut avoir pour moi, ça, on jugera ce trade pour eux dans 3 ans si Caris LeVert est un meilleur joueur que Victor Oladipo au moment de la, dans 3 ans, parce que je rappelle que même si ils ont été draftés avec 3 ans d'écart, je crois qu'ils n'ont qu'un an d'écart, Caris LeVert et Victor Oladipo. Les deux ont des soucis de blessure, mais Caris LeVert est resté 4 ans à la fac, dont un an où il a pas joué parce qu'il était blessé. Et une autre fois où il a arrêté sa saison en courte saison parce qu'il avait une blessure grave aussi. Donc en fait, il est vieux, Caris LeVert, pour un joueur drafté en 2016. Comme toi, je trouve qu'il a ses limites, Caris LeVert, collectivement. J'attends de voir ce qu'un coach qui vient de Toronto va faire avec lui. On jugera dans 3 ans. Si Caris LeVert est un meilleur joueur que Victor Oladipo.
Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Parce que moi, franchement, quand je vois les réactions, j'ai l'impression qu'on a déjà décidé que, parce que financièrement, c'est mieux, eh bien, c'est mieux. Alors que, honnêtement, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, Oladipo avait ses limites. Ça n'a jamais marché avec Brogdon, ce qui est bizarre, ouais. Mais bref. Mais je trouve que LeVert reste ce qu'on appelle un trou noir. Hein. C'est parmi les joueurs qui, statistiquement, dribblent le plus. En fait, quand tu lui donnes le ballon, il dribble pendant 5 secondes. Et on moque souvent Harden et d'autres joueurs pour ça. Il est pire qu'Harden dans cette catégorie statistique. Par exemple, là, il a fait des bonnes perfs avec les Nets, mais bien souvent, c'est sur de l'ISO où il va jamais passer la balle. Et je me demande à quel point ça peut s'inscrire
aussi
dans le jeu d'Indiana.
Il joue contre les bancs aussi, beaucoup.
C'est ça. Après, ils se disent peut-être, il nous manquait, alors, ça leur fait, j'ai peur de dire ça, mais potentiellement, c'est peut-être leur meilleur pur scoreur. Ils se disent peut-être, on a un pur scoreur, mais je ne le vois pas ni l'efficacité, ni la possibilité d'être le pur scoreur leader d'une vraie équipe avec des ambitions.
Mais c'est vrai qu'après, en termes de scoreur, tu vois, ils vont récupérer Lamb, et tu as du coup TJ Warren qui est un peu blessé, donc peut-être qu'ils se sont dit ça. Après, c'est vrai que c'est un joueur, Caris LeVert, c'est un joueur entre guillemets un peu dynamique. C'est des joueurs qu'ils ont pas vraiment le type de joueur un peu dynamique. On voit que voilà, quand tu vois par exemple dans le clutch, ils ont peut-être besoin d'un joueur qui est capable de prendre la balle et de pouvoir faire la différence sans avoir à passer la balle, puisque on voit que Indiana dans le clutch, c'est l'équipe qui a le plus haut turnover rate, le plus haut turnover rate, donc qui perd le plus la balle dans le clutch dans la NBA, et c'est aussi l'équipe qui est la dernière au free throw rate. Donc en gros, c'est une équipe qui n'arrive pas à aller sur la ligne en fin de match. Donc typiquement, Caris LeVert, c'est un gars qui a du dynamisme, qui peut se faufiler entre guillemets plus facilement dans la raquette depuis son dribble sans devoir bénéficier du décalage de quelqu'un. Et on l'a vu par exemple cette saison dans les différents clutches, on l'a vu face aux Warriors, c'est Holiday qui arrive à pénétrer, tu vois, avec son dribble pour aller dans la raquette, tout ça. Donc ils avaient peut-être besoin de ça. Et après, comme tu disais, par rapport à Oladipo, c'est un peu un échange de stars, dans le sens où même si ce sont des joueurs qui récupèrent pour ils récupèrent LeVert pour faire ce que Oladipo fait, même si Oladipo a le potentiel de le faire beaucoup mieux que LeVert, ils sont sûrs d'avoir LeVert pour plus longtemps qu'ils auraient eu Oladipo, parce qu'ils veulent pas pour payer Oladipo au montant que lui voudrait. Donc à partir du moment où tu sais que Oladipo, tu veux pas le garder, ben tu essaies de récupérer quelque chose dont tu pourras te servir sur plus long terme, parce que Indiana n'attire personne à la free agency, et encore moins des jeunes joueurs sur de longs contrats.
Clairement, il y a ce pari sur... Je pense qu'on est assez... encore une fois, on peut un peu s'écarter des analyses de tout le monde. C'est surtout parce que je pense qu'on ne prête pas de potentiel peut-être à Caris LeVert. On prête pas de potentiel à un mec qui va avoir 28 ans en août. On prête pas de potentiel à un mec qui a dépassé une seule fois les 60 matchs en saison régulière.
Incroyable.
C'est pour ça, en fait, Oladipo, ses blessures, c'est peut-être de l'instant, peut-être de la réaction sur l'instant, mais historiquement, en fait, Oladipo a moins de problèmes de blessures que Levert. Juste que Levert a pour lui le fait d'avoir moins eu de problèmes récemment.
Complètement.
Mais j'ai l'impression de choquer en disant ce que je vais dire, mais Victor Oladipo est un meilleur joueur de basket que Caris LeVert en théorie. Peut-être à l'instant là, non, mais Caris LeVert, j'ai l'impression qu'on reste figé sur les évaluations pré-draft et bref. Ça, c'est mon grand sujet de réflexion du moment, à quel point on reste figé sur les évaluations pré-draft ou les évaluations après l'année rookie.
Complètement. Pour moi, Caris LeVert, c'est un scoreur micro-ondes de sortie de banc.
C'est ça.
Et c'est pas négatif de le dire. Mais il a peut-être un petit peu plus de potentiel physique et athlétique que Jamal Crawford et Lou Williams. Mais c'est peut-être la version améliorée plus jeune. Mais c'est ce type de joueur. Et il a toujours joué contre des bancs aussi, Caris LeVert. Bon, bien sûr, dans la bulle, il était tout seul avec Brooklyn. Par moments, il a été mis dans le 5 et tout ça. Mais il a jamais. La plupart du temps, il était le leader d'une unité contre des bancs. Et si jamais il est mis dans le 5 de départ, ça va être différent.
Et surtout si c'est le point central de ton attaque dans le clutch, ça veut dire qu'il va être pris par le meilleur défenseur adverse, etc. Donc, ouais.
Peut-être qu'Indiana voulait passer aussi à autre chose, parce que cette saison à Indiana, tu vois, Oladipo, c'était plus vraiment un luxe qu'une nécessité. Hein. C'est une équipe qui s'est totalement reconstruite autour de Brogdon et Sabonis. Au final, Oladipo, c'était pas, voilà, c'était du luxe de l'avoir, mais c'était pas vraiment nécessaire de l'avoir pour jouer de la façon dont il joue, en fait. Surtout que Miles Turner a aussi progressé, il est un petit peu plus agressif offensivement. Donc, je pense que ça fit plus peut-être la mentalité aussi du nouveau coach. Peut-être avoir la mentalité du nouveau coach. Et puis, Indiana, c'est une équipe qui est aussi réputée pour réhabiliter des joueurs. TJ Warren, avant qu'il arrive à Indiana, peu de gens y croyaient. On pensait que c'était juste un scoreur de mauvaise équipe. L'année dernière, il a prouvé que non. Pas tant que ça, puisqu'il avait une bonne équipe. Enfin, il était dans une bonne équipe. Sabonis, quand il était à OKC, il prenait des 3 points dans le corner. C'était pas du tout le joueur que c'est là. Ils y ont cru, ça a marché. McDermott, les gens avaient abandonné. Finalement, ça fonctionne. Holiday, les gens avaient un peu abandonné. Sauf moi, bien sûr. Mais ça fonctionne. Donc, et même Lamb, tu vois, Lamb, il a jamais rien fait dans une bonne équipe. Ils l'ont récupéré l'année dernière, il jouait plutôt bien. Donc, peut-être que eux, ils croient en leur système pour réhabiliter les joueurs.
Ça peut se défendre. Après, réhabilitation, à quel niveau aussi? Alors, ouais, tu vois, il peut avoir ça. Mais après, oui, c'est une autre façon de spéculer. C'est-à-dire prendre le joueur au plus bas et espérer que, voilà, la structure autour va faire marcher. On souhaite aux Pacers que ça marche, mais on verra l'avenir pour Caris LeVert et cette équipe d'Indiana. On finit par Cleveland. Cleveland qui est un petit peu venu dans le trade, là, qui a piqué Jarrett Allen, comme ça, en passant contre le premier tour non protégé des Bucks en 2022 et un second tour en 2024. Autant dire pas grand chose pour un jeune pivot qui rentre parfaitement dans le moule de ce qu'on attend actuellement, protecteur de raquette, etc. Et Taurean Prince. Allen, y a un peu rien à dire. Alors, on avait une question comme quoi, est-ce que c'est pas ce que peut faire un cas d'école de ce que peut faire une équipe, voilà, qui attire pas, qui est dans une processus de reconstruction, mais voilà, qui se greffe à un trade plus gros et qui récupère, quelque chose de plutôt attrayant.
Complètement. Pas besoin de disserter, je pense, sur là-dessus. Ils ont une jeune équipe, ils ont des vieux contrats, ils ont quelques pics supplémentaires. Alors, il y a deux types de choses quand t'es dans cette situation. Soit tu incorpore des pics contre des mauvais contrats, soit tu utilises des pics que t'as incorporés contre tes mauvais contrats et que tu vas récupérer pas des mauvais contrats, mais ce que tu veux. Et là, c'est le cas avec Jarrett Allen. Taurean Prince, c'est de la profondeur à l'aile, ça fait jamais de mal. Et puis Jarrett Allen, c'est super pour Garland, du pick and roll avec Garland, pour Sexton, pour défendre, pour jouer potentiellement. Et puis ça peut leur permettre aussi, voilà, de se débarrasser de Larry Nance, si jamais il y a une bonne offre, de se débarrasser d'autres choses. Donc non, pas plus à dire, franchement, super bien pour eux.
On se moque beaucoup à l'heure actuelle de tous les pivots qu'ils ont, mais Drummond ne sera probablement plus là. Enfin bref, ça va. l'équipe qu'on a aujourd'hui, donc le 14 janvier 2021 et l'équipe qu'on aura le 14 janvier 2022, je pense qu'à l'intérieur, il y aura peut-être que Jared Allen qui aura survécu ou une ou deux autres personnes. Tom, qu'est-ce que tu as à dire sur ce trade des pour Cleveland? Et ensuite, j'ai une question qui vient de me venir totalement provocatrice sur ce trade. Donc, je te laisse déjà commencer par ce que tu penses vis-à-vis de ça.
Par rapport à Cleveland, en fait, ils font exactement le même pari qu'ils ont fait l'an dernier avec André Drummond. Le coût d'opportunité était trop bas, enfin, il était super bas, donc ils se disent, on prend, tu vois. Enfin, typiquement, l'année dernière, ils ont fait le pari que le André Drummond serait mieux qu'avoir du cap space à cette intersaison-là. Donc, ils ont récupéré André Drummond contre quasiment rien. Et là, cette saison, ils se disent que utiliser je sais pas, 14 millions de cap space pour ingérer le contrat de Taurean Prince et nous offrir le droit de pouvoir payer Jared Allen, c'est mieux que simplement avoir le cap space, quoi. Et comme Alan le dit, ça sert à rien. Alan le dit, c'est pas ouf de drafter un pivot en fait en développement. Donc, vaut mieux prendre un pivot qui déjà bon, et Jared Allen, en fait, il est déjà bon, donc tu peux te permettre de le payer sans avoir à atteindre toute la phase de développement. Et puis Jared Allen, c'est un gars qui a un niveau au-dessus des pivots au minimum et au-dessus de la mid-level exception, donc tu vas pouvoir avoir ses droits et le payer pendant, et avoir ses droits pendant au moins 4 ans.
Ouais, il est, non, mais déjà, c'était une anomalie du côté des Nets que DeAndre Jordan startait, enfin, il est vraiment, il a tout ce qu'on demande, et il a même des fois ajouté un petit shoot. Alors, il y a eu des airballs hein, dans les matchs que j'ai vus, mais il a ajouté un petit shoot. Ma question provocatrice arrive. Est-ce que sa perte est pas plus dommageable que celle de Caris LeVert pour les Nets?
Si.
Ah, clairement. Clairement.
Si, mais ah, d'accord. Mais c'est même pas provocateur. C'est même pas provocateur.
Mais faut pas le dire.
Si, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va conclure là-dessus. Mais je pense que ils perdent beaucoup plus, en fait.
Offensivement, t'as pas besoin de Caris LeVert. Défensivement, t'as besoin de Jared Allen.
Mais il a quasi dominé Rudy Gobert, hein, cette semaine.
Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors moi, peut-être que là, je fais l'inverse de ce que j'ai pu faire avec Caris LeVert, que là, je surcote un peu Jared Allen, mais tu peux lui demander quoi d'autre? Enfin, il protège la raquette. Alors certes, il va se faire dunker dessus, mais ça, c'est tout. Comme tous les mecs qui protègent la raquette, forcément, ça va arriver. Il a ce petit shoot, il est capable de jouer sur pick and roll. Quand t'as des jeunes arrières, tu demandes que ça.
Donc, jeune. Voilà. Jeune, mais déjà bon.
C'est parfait. Eh bien, messieurs, on l'aura fait. On aura parlé des 4 équipes. Alors, il y aura beaucoup plus à dire. Là, on était dans ce que les Américains appellent un emergency podcast. Donc là, on était dans l'urgence. Donc, on va un peu se poser ensuite et faire plus grosses analyses ensuite. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Nous notez pour, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce trade, l'arrivée de James Harden au Nets. Je pense qu'on va, honnêtement, surtout moi, mais un peu nous, on va passer un peu pour des, je sais pas, pour des personnes qui empêchent les gens de profiter, parce que beaucoup de personnes sont dithyrambiques sur ce trade, hein, en mode association de stars incroyable. On l'a dit, pour nous, ils deviennent les favoris à l'Est, mais ils ne sont pas l'équipe favorite en NBA. C'est net cela. Voilà. Puis du côté de Houston, Tillman, Fertitta, voilà. Hein, le mâle blanc qui veut une franchise NBA et du coup qui économise de l'argent. Très bien. Et bien du coup, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de streaming aussi, c'est très important. Nous, on va se reposer un peu, regarder quelques matchs et puis on se retrouve en début de semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine, bonne fin de semaine, bon week-end et à plus. Salut.
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 Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.